C'est une belle journée, n'est-ce pas? Après le brouillard de cette semaine, la pluie de hier, le soleil ce matin, la neige sur le Jura, c'est magnifique. Bonjour, bienvenue et bonne année à chacun. On est peu nombreux, mais on sait pourquoi on est là. Je vous souhaite une très bonne année 2016. Je ne sais pas si pendant cette année, il y aura beaucoup de bons moments, mais je souhaite qu'il y en ait le plus possible. Jésus n'a pas promis que nous n'aurions pas de difficultés, pas de souffrances. Il a seulement promis qu'il serait tous les jours avec nous. Donc notre défi, c'est dans les bons et les mauvais jours de savoir retrouver sa présence. Je vous invite à prier pour remettre nos vies à Dieu et ce culte. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'être là ce matin, présent au milieu de nous, présent à côté de chacun d'entre nous et dans le cœur de chacun. Nous te prions pour que dans nos vies, quand c'est difficile, on a tendance à se refermer. Mais Seigneur, aide-nous à ouvrir notre cœur pour recevoir ce que tu aimerais nous donner. Seigneur, sois aussi avec tous ceux qui ne sont pas avec nous en vacances, malades, trop fatigués, les jeunes au camp de ski ou qui viennent de rentrer. Bénis-nous chacun. Sois avec Sylvain qui nous apportera le message et sois avec nous afin que nous soyons réceptifs à ta parole. Merci Seigneur. Amen. Et nous chantons « Trouver dans ma vie ta présence ».
Thank you.
choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. On vient de fêter, de passer par des fêtes qu'on aime joyeuses et harmonieuses. Le thème de ce dimanche nous emmène dans une ambiance tout à fait différente, dans une problématique qu'on aimerait bien éviter, mais qui est une réalité pour nombre de nos concitoyens en Suisse, en Europe et dans le monde entier. Vous pouvez vous asseoir. Voici comment notre Dieu se présente en Jésus-Christ. Le Seigneur dit : Voici mon serviteur, je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort. On n'entend pas sa voix dans la rue. Il ne casse pas le roseau courbé. Il n'éteint pas la flamme qui devient faible. Mais il fait réellement connaître le droit. Il ne se découragera pas, il n'abandonnera pas avant d'établir le droit sur la terre. Nous chantons ce Dieu qui est si différent des autres, ce Dieu qui nous aime et qui est doux et tendre, attentif à nous.
Voilà, bonjour. À mon tour aussi de souhaiter bonne année à tous ceux avec qui j'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est vrai que j'ai pensé pour ce matin aborder un peu le thème de la violence et de la paix. C'est pas un thème facile. Pour tout vous dire, quand j'ai dit à Denise que j'allais aborder ce thème, oulala, qu'elle me fait. Et j'y pensais depuis un certain temps, puis je me demandais si c'était bien sage d'aborder ce thème. Et puis quand on était chez les Piguet, là, il y a deux, trois semaines, voilà que Blaise, j'étais invité avec Blaise chez les Piguet, puis Blaise a sorti du repas, il me dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu penses de la violence dans l'Ancien Testament, voilà. Je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être un sujet qui préoccupe et qui nous préoccupe particulièrement en ces temps où on a eu beaucoup de violence. Puis c'est vrai qu'aussi, on a parlé de paix à Noël, on présente toujours Noël comme un message de paix, et je crois que c'est quelque chose qui est perçu comme ça bien au-delà des cercles des chrétiens. Même si les gens savent plus du tout la signification de Noël, il y a quelque chose de très profond qui est resté là, sur le fait que on n'est pas fait pour la guerre, qu'il y a une attente quelque part de l'ordre de la paix. Alors c'est vrai que cette question, elle se pose. C'est aussi une question qui m'habite personnellement. Qu'est-ce qu'on fait avec la violence qui est dans la Bible? Qu'est-ce qu'on fait avec ces arguments qui nous sont quand même assez souvent renvoyés, que la religion serait un facteur de violence dans la société? Alors, c'est vrai qu'on a assisté à une violence incroyable ces derniers temps, que ce soit à Paris, que ce soit ces exécutions qu'on nous montre à la télévision par l'État islamique. C'est vrai qu'il y a eu des violences énormes, scandaleuses. Mais en même temps, est-ce que pour autant notre monde est plus violent aujourd'hui qu'autrefois? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on est facilement victime d'une illusion d'optique, pour plusieurs raisons. Il y a déjà une illusion d'optique géographique. Quand on a des attentats à Paris, ça nous touche, on en parle, etc. Il y en a bien d'autres qui font beaucoup moins de bruit. Il y a d'autres choses qui se produisent presque à l'insu de tout le monde et sans qu'on s'en préoccupe beaucoup. Les violences en République démocratique du Congo ces dernières années, à ma connaissance, elles ont fait 2 millions de morts. On n'en parle pas beaucoup. On a aussi une illusion d'optique peut-être temporelle, à cause de la manière dont l'information circule. Aujourd'hui, quand vous avez un événement qui se produit, un accident, un crime, vous avez peut-être 200 millions de personnes qui en entendent parler à la télévision en moins de 24 heures. Il y a un siècle, quand il y avait un crime à Paris, ça passait dans les journaux, il y avait le quartier qui le savait au bout de quelques jours. Et il y avait, en fait, si on fait des statistiques, la criminalité était plus forte dans des grandes villes comme Paris il y a un siècle qu'aujourd'hui. Simplement, ça ne remontait pas à notre connaissance de la même manière. Et puis, on a aussi une certaine faculté d'oubli. Il suffit de repenser aux deux guerres mondiales qui ont eu lieu le siècle dernier et à la Shoah, ou à ce qui s'est passé avec le goulag, qui a fait quoi ? C'est quoi ? C'est 70 millions ou quelque chose comme ça, hein, de morts. Il y a eu des choses épouvantables. Et quand on revoit, il m'est arrivé de revoir il n'y a pas très longtemps des séquences sur la Deuxième Guerre mondiale et sur les discours d'Hitler, et ça fait froid dans le dos de voir comment les gens buvaient ces paroles. Voilà. Alors je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis pour moi qui ai vécu en Asie, le Vietnam qui a aussi fait 2 millions de morts, la guerre du Vietnam, et puis le Cambodge, avec le régime des Khmer Rouges entre 75 et 79, qui a fait périr 20% de la population, hein, 1 700 000 sur 8 millions, ou le Rwanda plus récemment. Voilà, je crois que c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, il y a une violence cachée qu'on ignore. J'écoutais, je crois que c'était le 20 décembre, il y avait une émission de « Faut pas croire » avec un interview de Lita Basset. Puis elle signalait, entre autres, qu'en France, aujourd'hui, il y a 2 enfants qui meurent par jour des violences familiales. Alors ça passe pas à la télé. Mais c'est des choses qui existent dans notre société et qui sont certainement pas pires que ce qu'elles étaient autrefois. Et puis, si vous lisez la Bible, ben je pense qu'on a assez vite fait, en lisant l'Ancien Testament, de voir que le monde était violent depuis longtemps. Voilà, donc je crois qu'il faut pas se laisser... C'est trompé par un discours qui ferait croire qu'aujourd'hui c'est devenu extrêmement violent et qu'autrefois c'était mieux. Alors on arrive à cette question un peu délicate, quelle relation est-ce qu'il y a entre la violence et la religion ? Parce que c'est vrai que la religion peut être source de violence et qu'elle l'a été, y compris dans notre histoire. On a rencontré Flavia Negrini il n'y a pas longtemps là, avec Paul Robert. Puis il s'inquiétait un petit peu parce qu'ils sont à Poitiers. Et puis il racontait que son fils de 13 ans, à l'école, il y a l'institutrice qui lui parle de versets violents dans la Bible et dans le Coran. J'ai aussi vu un truc assez intéressant. En Belgique, il y a des gens qui sont amusés à prendre une Bible, à aller chercher des versets violents dedans. Seulement, ils ont recouvert la Bible avec une couverture, puis ils ont marqué « Coran » dessus. Vous avez vu ça ? Puis ils ont été interviewés des passants, puis leur lire des passages violents. Puis les patients n'étaient pas très surpris de voir des passages violents dans le Coran. Puis ensuite... ils ont enlevé la fausse fourre pour leur dire « mais ça, c'est dans la Bible ». Alors, les gens étaient assez surpris. C'est vrai que si on va chercher des versets isolés, on peut trouver des choses très violentes dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Bible elle-même, sur la violence ? Ça commence au tout début de la Bible avec un récit de jalousie qui amène à un meurtre entre deux frères, amène à un assassinat. Et ça nous est décrit comme quelque chose qui se passe à l'intérieur du cœur d'une personne, qui laisse la colère, qui laisse le péché, qui laisse la jalousie, qui laisse ses sentiments monter en lui au point qu'il va assassiner son frère. Donc la Bible nous montre bien, de manière réaliste, à quel point la violence est inscrite au fond de nous. Je dirais, moi, je l'ai découvert avec moi-même, de manière... quand j'étais un peu ado, voilà. Je me souviens de cette époque où on supporte pas certaines choses de ses parents, puis on se met dans des colères, voilà. Alors, je veux pas vous les décrire, mais voilà. Et puis, quand j'allais à l'école, les gens me trouvaient tout gentil. Et c'est vrai que je me demandais comment je pouvais être deux personnes si différentes quand j'étais en colère à la maison, puis quand j'étais si gentille à l'école. Et je pense que chacun de nous peut peut-être retrouver des choses dans sa vie où on voit que la violence, elle est là. En général, on la maîtrise pas mal, mais de temps en temps, elle peut ressortir d'une manière qui nous étonne nous-mêmes. Et quand Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit par exemple, « Il vous a été dit, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis, si vous insultez votre frère, vous en méritez autant que pour commettre un meurtre », Jésus, il pointe le fait que cette violence, elle est en nous. Elle est dans notre intérieur avant même que ça se traduise par des actes. Il pointe vers cette racine intérieure. Alors voilà une première chose. Maintenant, dans le Premier Testament, l'Ancien Testament, par respect pour les Juifs, on aime des fois bien dire le Premier Testament, c'est vrai qu'il y a des textes qui mettent la violence dans la bouche de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, moi, je ne vous donne pas une réponse toute faite et définitive, hein, mais c'est une piste. Pour moi, en tant que chrétien, il y a une chose qui oriente notre lecture de toute la Bible, c'est Jésus. C'est le message et la vie de Jésus. L'accent qu'il a mis sur la grâce, son choix de la non-violence, le fait qu'il a donné sa vie, tout ce qu'il enseigne dans le Sermon sur la montagne. Pour moi, c'est ça qui est au centre et qui éclaire le reste. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de violences dans ce Premier Testament. Moi, je dirais que j'y vois une espèce de tableau, une immense fresque, une fresque très contrastée qui nous présente la vie du peuple de Dieu et de sa compréhension de Dieu, avec des compréhensions qui sont différentes et qui se répondent, qui dialoguent entre elles. On voit l'exemple du livre de Job, où il y a deux conceptions de la relation entre le mal et le péché, de la relation entre Dieu et voilà, un Dieu qui punit ou un Dieu qui fait grâce. Pendant 40 chapitres, bon, 38 parce que les deux derniers c'est autre chose, mais voilà, pendant 38 chapitres, on argumente dans un sens et dans l'autre. Je pense aussi à des exemples, un autre exemple classique de conceptions différentes qui sont dans les textes, c'est quand vous vous souvenez de l'histoire où David a une fois fait un recensement du peuple, puis ça lui était reproché parce que voilà, il ne devait pas compter sur le recensement de ses militaires, il doit compter sur il ne doit pas donc compter sur la force militaire pour se protéger, c'est ça que ça veut dire. Mais il y a un des textes qui raconte l'histoire, il dit que c'est Dieu qui lui a inspiré ça, et puis l'autre qui dit que c'est Satan. Alors c'est Dieu ou c'est Satan ? Mais voilà, c'est deux manières de voir les choses qui sont dans les textes et qui sont en dialogue. Je pense encore à une chose aussi où on voit un contraste. Dimanche dernier, on a lu ce texte extraordinaire avec le message de Roger où Dieu est présent dans un souffle ténu. Mais on n'a pas lu le texte d'avant, extraordinairement violent, où le prophète Élie ordonne l'assassinat de tous les prophètes de Baal. Moi, je pense que ce paysage très contrasté avec une violence qui est partout, et puis ce Dieu qui se montre autrement, nous dit quelque chose par ce contraste. Donc je pense que c'est bien d'essayer de comprendre cet ensemble du message biblique, pas en prenant tel ou tel verset, mais en repérant qu'est-ce qu'est le paysage d'ensemble et qu'est-ce qu'est le projet de Dieu. Et pour moi, le projet de Dieu, ce n'est pas un projet de violence, c'est un projet de réconciliation. Et le texte d'Ésaïe que Denise nous a lu va tout à fait dans ce sens. Et ces textes d'Ésaïe qui parlent, qui annoncent le serviteur souffrant, c'est ceux qui ont nourri toute la vocation de Jésus. Alors je crois que toute la Bible, en fait, si on la lit à la lumière de l'Évangile, elle est orientée vers ce projet de paix et de réconciliation qui commence à la création et qui va jusqu'à la vision d'Apocalypse 21. Mais parlons un peu de paix. Alors, quelle paix? Qu'est-ce que c'est que la paix? Parce qu'en français, le mot paix, c'est, on l'oppose à guerre, donc on pense que c'est la paix quand il n'y a pas de guerre, en gros. Mais dans la Bible, il y a un terme qu'on connaît bien, parce que c'est le terme shalom, c'est le terme qui est dans le nom de la ville Jérusalem, Yerushalayim, et qui est dans les noms aussi de pas mal d'autres villes, y compris en arabe, hein, et c'est un mot qui signifie beaucoup plus que l'absence de guerre. Ça signifie qu'il y a des relations réconciliées entre les gens à tous les niveaux. Ça signifie que chacun a droit à ce dont il a besoin pour vivre. Il a son jardin, il peut cultiver sa terre. Donc il y a une harmonie dans la société, il y a une prospérité qui est là. Pas forcément une abondance énorme, mais une prospérité où chacun a le nécessaire, où les richesses sont réparties de manière juste entre les différentes personnes. C'est ça, la paix dont parle la Bible. Et il y a un thème qui est tout à fait intéressant, c'est que pas mal de textes bibliques soulignent le lien qu'il y a entre la paix et la justice. Et je pense que celui que Denise nous a lu, déjà, il faisait allusion au droit, qui est un autre terme aussi pour justice. Mais je pense par exemple à ce texte d'Ésaïe 32 qui annonce que l'Esprit sera répandu sur nous, alors le désert deviendra un verger, tandis que le verger aura la valeur d'une forêt, le droit habitera dans le désert et dans le verger s'établira la justice, le fruit de la justice sera la paix. La justice produira le calme et la sécurité pour toujours. Je trouve que c'est très fort et très pertinent aujourd'hui, la justice produira la paix. Parce que beaucoup de guerres sont liées à des injustices. Et je pense que chacun peut s'en persuader facilement. Et dans toutes les situations de conflit, lorsqu'il y a des humiliations de celui qui a été écrasé, c'est des germes pour une guerre suivante, comme ça s'est passé d'ailleurs entre les deux guerres mondiales, où après la Première Guerre mondiale, on a pensé qu'il fallait écraser l'Allemagne, qui s'est sentie humiliée, et ça fait partie de, on peut dire, des causes qui ont finalement amené à une Deuxième Guerre mondiale. Je pense aussi à l'exemple de Nelson Mandela, parce que je me souviens quand il y a eu son ensevelissement, vous avez probablement tous eu l'occasion de le voir à la télévision. Ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que ce qui a été souligné de son parcours, c'est un homme, hein, il a ses faiblesses et tout, mais ce qui a été souligné de son parcours, c'est qu'il a été capable de dire à aux Africains noirs de son pays, on va reconstruire le pays avec les Blancs, on ne va pas se venger des injustices qu'on a subies. Et je crois que quelque part, tout le monde, même sans connaître l'Évangile, sait que c'est ça qui est juste, même si c'est très rarement pratiqué. Et je crois que ça, c'est le message du Christ. Alors je disais, le projet de Dieu dans ce monde, c'est bien un projet de paix. Et la mission de Dieu dans ce monde, c'est une mission de réconciliation. Et notre vie chrétienne, ben c'est de quelle manière on entre dans le projet de réconciliation de Dieu. Je voulais lire juste un... J'ai lu certaines choses tout à fait intéressantes dans ce livre « Radicalement chrétien » de Stuart Murray. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu parmi vous ? D'accord. Alors, une de ce qu'il appelle des convictions fondamentales, que je trouve tout à fait intéressante, si la mission de Dieu est la réconciliation, cela ne s'applique pas seulement aux êtres humains, mais à toute la création. Puis cette conviction est exprimée ainsi, la paix est au centre de l'Évangile. En tant que disciples de Jésus dans un monde divisé et violent, nous nous engageons à trouver des solutions non violentes et à apprendre comment faire la paix entre individus, à l'intérieur des églises et entre elles, dans la société et entre les nations. Et j'aime bien cette vision globale, voilà, d'entrer dans une mission de réconciliation qui nous concerne personnellement, qui concerne notre église, les églises entre elles aussi, et qui va jusqu'à la société tout entière. On est dans une église, hein, ici. Il y a une image. À quoi est-ce qu'on voit qu'on est dans une église ? Ah, ok. Mais malheureusement, dans l'histoire de l'église, la croix a été pas mal dévoyée. Pour qu'on utilise le mot croisade, ça vous montre à quel point le sens de la croix a été quelque part perdu à un moment donné de notre histoire. Ça nous paraît très lointain, hein, à nous, les croisades. Oui, on nous le rappelle tout le temps, mais enfin, voilà, c'est des choses qui font partie des livres d'histoire. On ne se sent pas concerné. Pas trop. Mais pour les musulmans qui, dans cette histoire-là, ont été ceux qui ont été écrasés par les autres, à ce moment-là, ça reste quelque chose qui est dans leur mémoire collective. Donc ça reste des sujets de ressentiment et de conflit. Mais la croix, pour nous, c'est précisément le symbole de la réconciliation. Dieu qui vient nous réconcilier avec lui en Jésus-Christ. C'est ça notre message. Et si on est rassemblé ici, c'est bien pour la recevoir de Dieu, d'abord, pour nous, et puis en vivre. Donc la paix dont la Bible parle, c'est quelque chose que je dois d'abord recevoir de Dieu, avec cette expérience d'un Dieu qui m'aime de manière inconditionnelle. Et puis ensuite, c'est une paix que je suis appelé à construire partout où je peux. Alors, c'est dans les relations courtes, hein, c'est-à-dire que, voilà, dans les relations dans la famille, les amis, enfin, les gens qu'on voit souvent. Et c'est souvent à cet endroit-là que les conflits font le plus mal quand ils apparaissent. Et c'est vrai que je pense dans mon engagement au Laos, où on a une ONG qui travaille, on a eu une situation très difficile à un moment donné avec notre directeur, et on a eu une situation conflictuelle qui, c'est vrai, nous a fait souffrir pendant un certain nombre d'années. Et c'est quelque chose qui a pu être dépassé, hein, il y a depuis une année ou deux, mais quelque part, quand on est dans un pays pour annoncer le message de l'Évangile, puis qu'entre nous, on a un conflit qu'on n'arrive pas à résoudre, on est un peu mal. Mais voilà, parfois, c'est notre réalité. Et je crois qu'on est appelé à ne jamais désespérer d'une situation de conflit à cause de Jésus-Christ. De toujours croire qu'il y a un chemin de réconciliation qui existe, même s'il prend longtemps. Puis je crois qu'on est aussi appelé à construire la paix dans la société, et spécialement aujourd'hui, parce qu'on devient de plus en plus, et je crois que c'est une réalité inéluctable, une société multiculturelle et multireligieuse. Et cet engagement pour la paix, je le rappelle encore une fois, je crois qu'il est complètement lié à un engagement pour la justice. Ça signifie aussi qu'on doit défendre la liberté religieuse. Dans ce livre, c'est intéressant parce qu'il rappelle que les anabaptistes, il y a 4 siècles, ils étaient à la fois des ardents évangélisateurs et des défenseurs de la liberté religieuse pour les juifs et les musulmans, voilà, à une époque où la liberté religieuse n'était pas tellement de rigueur. Hein, voilà. On aura l'occasion de mettre ça en pratique en avril-mai, parce qu'il y aura des rencontres interreligieuses qui seront organisées dans le cadre des 40 ans du CEPOP. Voilà. Donc, je vous encourage, c'est peut-être pas évident, mais je pense que c'est aussi une manière de témoigner que d'être présent dans le dialogue avec les autres. Et la paix, c'est aussi quelque chose qu'on peut être appelé à demander dans nos prières. Un truc tout à fait intéressant que Lita Basset, dans cette même émission, nous disait, elle parlait de son engagement dans l'ACAT. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture. C'est une organisation chrétienne qui est un peu parallèle à Amnesty International, mais qui est chrétienne, tandis qu'Amnesty est laïque. Et elle disait, à l'ACAT, on prie pour les persécuteurs, on prie pour les tortionnaires. Elle disait dans des rencontres, je pose la question aux gens, est-ce que vous priez pour ces gens de l'État islamique qui commettent des crimes abominables? C'est pas évident, parce que moi, je sais pas, quand je vois ce genre de trucs, ça me donne pas spécialement envie de prier pour eux, et pourtant, c'est bien ce que l'Évangile nous dit. Alors voilà, il arrive des réfugiés, il y a des migrations, il y a des gens de toutes sortes de couleurs, de cultures, de religions qui sont parmi nous. Et Dieu nous appelle à participer à sa mission de réconciliation, aussi bien en annonçant l'Évangile, parce que c'est une occasion d'annoncer l'Évangile, qu'en incarnant cette mission de réconciliation de Dieu, et dans notre manière d'être des artisans de paix. On l'a chanté dans le chant « Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix ». Et je relirai simplement en conclusion, parce qu'en vous proposant ça comme voilà, notre vocation, peut-être pour cette année et plus, « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». C'est la 7e béatitude. Je propose un petit moment de silence. Si quelqu'un veut exprimer quelque chose dans une prière, vous êtes libre, sinon voilà.
Le silence nous a permis de faire descendre en nous ce que Sylvain nous a dit. un beau programme, mais pas désespérant, parce que nous pouvons être porteurs de justice qui produit la paix et la réconciliation. On prie, mais souvent ça ne se passe pas sans les êtres humains. Sylvain a mentionné Nelson Mandela. Je pensais aussi à l'église confessante en Allemagne. Elle a peut-être aussi participé à la fin de la guerre. Ou à Martin Luther King, il y a des gens qui se sont levés. Souvent, l'action de Dieu passe à travers nous. Mère Teresa disait, c'est sûr, ce qu'on fait, c'est juste une goutte dans un océan. Mais si on ne le fait pas, il manque cette goutte à l'océan. Donc, je vous propose un moment de prière libre pour prier pour nous, que nous soyons porteurs de cette paix, de cette réconciliation, de cette justice, et aussi pour notre monde qui en a bien besoin. Nous prions.
Inspiré par toi, Seigneur, pour autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et c'est vrai que la paix dont on parle tellement et on entend tout le temps, cette vraie paix commence d'abord par nous-mêmes, dans nos relations. Avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos belles-mères. Mais cette paix, cette relation d'amour sur laquelle la paix est basée, Seigneur, elle ne peut pas être trouvée en nous-mêmes. C'est toi qui nous la donnes, c'est toi qui es la source de l'amour, qui est la source de la paix. C'est cette paix que nous te demandons, Seigneur. Amen.
Amen.
Tu es d'amour, Seigneur, et tu es aussi saint, trois fois saint. Et de cette sainteté sort la justice. Merci parce que pour tes enfants, tu as des plans d'amour et de justice. Merci que nous pouvons te demander de nous donner l'amour, de nous aider à faire justice, d'être juste. Et j'aimerais te demander, Seigneur, que tu visites chacun de nous afin que ta paix puisse entrer en nous. Que tu fasses paix entre nous et le Père. Amen.
Amen.
Seigneur, si tu nous demandes de prier pour les tortionnaires, tu nous donnes un exemple grandiose dans la Bible, c'est Saul de Tars, cet assassin que tu as transformé. Et fort de cet exemple, nous pouvons te prier pour les assassins de ce monde, en sachant que pour toi, rien n'est impossible. Amen.
Amen.
Seigneur, suscite aussi parmi les grands de ce monde ce désir d'établir la paix et la justice. Nous prions pour les conférences au programme de cette année.
Amen.
J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple. La bienveillance et la vérité seront dans la justice et la paix sans masse. Te bénissons, Père, pour la réalité de la croix où tu as effectué ce que nous n'aurons pu jamais effectuer. La justice pleinement satisfaite, la paix établie en Jésus.
Amen. Amen.
Seigneur, tu as dit, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde. Et c'est vrai, Seigneur, cette paix ne vient que par la croix de Jésus. Jésus qui a pu dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, que nous soyons aussi animés de cet esprit de pardon. Au nom de Jésus.
Seigneur, si nous-mêmes nous ne sommes pas habités par la paix, nous ne pouvons pas la porter aux autres. Si dans notre cœur il y a la peur de l'autre, on ne peut pas apporter la justice et la réconciliation. Nous avons chanté « Aimer est se savoir aimer ». Chaque jour, Seigneur, apprends-nous à accepter cet amour, afin que nous n'ayons plus peur de l'autre différent de nous, dans sa culture, dans sa religion, dans son histoire. Nous te prions pour tous les responsables politiques, pour tous ceux qui sont engagés dans la guerre, tous ceux qui commettent des atrocités, afin que quelque chose en eux soit sensible à l'amour que tu as pour chacun, pour tout être humain sur la terre, quel qu'il soit, afin qu'ils puissent cesser d'avoir peur, cesser de tuer, cesser de faire du mal, mais qu'ils puissent se sentir en sécurité, être bien avec toi. Merci Seigneur, parce que tu ne désespères pas de l'humanité. Merci parce que nous participons à ton plan de paix. C'est une confiance qui nous élève, qui nous rend forts. Merci Seigneur. Amen. Et je vous invite à chanter « Seigneur, fais de nous ».
Thank you.
on a intérêt à aimer la paix et la vie. C'est une très bonne motivation, notre intérêt personnel. Voici ce que Dieu nous dit dans le psaume 34. Enfin, c'est un psaume de David devant le roi Abimélec. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Alors, ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. C'est tout un programme. Et peut-être que dans cette marche, nous nous dirons « Aïe, 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 j'ai pas réussi ». Peut-être que nous ferons la découverte de cette violence qu'il y a en nous dont parlait Sylvain et nous ne sentirons pas dignes d'être aimés de Dieu. Mais venir à la table de la Sainte Cène, c'est savoir que l'on est aimé, accueilli, qui que nous soyons, tel que nous sommes, et pardonné si nous avons fait quelque chose de mal.
Je vais lire dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Le pain que nous rompons est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. La coupe de vin, symbole du sang de Jésus-Christ, scelle notre réconciliation avec Dieu. C'est par amour que Jésus a fait cela pour nous, parce que la grande aspiration de son cœur, c'est que nous soyons en paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres.
Seigneur, nous sommes devant toi, prêts à accueillir ton amour manifesté en Christ. Nous sommes là-haut, à cet endroit qui est le plus profondément nous révèle le vrai visage de Dieu et nous permet de recevoir la réconciliation. Que nous puissions la recevoir pour en vivre tous les jours. Amen.
Le jus de raisin est au milieu dans les verres violets. Et si quelqu'un désire la coupe, qu'il me fasse signe.
homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Il le protège. Aucun de ses os ne sera brisé. L'homme mauvais mourra à cause de sa méchanceté. Les ennemis de ceux qui obéissent à Dieu seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni. Nous chantons, rendons grâce à Dieu.
Car il est bon, car son amour demeure jamais.
C'est maintenant le temps de l'offrande, et pendant l'offrande, nous aurons les annonces.
Alors, pour les annonces. Il y a le repas canadien qui suit le culte pour ceux, celles qui souhaitent prolonger ce temps. Si vous avez oublié, venez le signaler si vous souhaitez quand même rester manger avec nous. Si on n'est qu'un petit groupe, on va s'organiser, décider entre nous comment on veut vivre ce moment. Il y a la semaine universelle de prière de l'Alliance évangélique qui s'annonce, pas cette semaine qui vient, mais la semaine d'après. Il y a ces papillons sur le présentoir qui donnent tout le programme. Nous sommes invités avec nos églises sœurs du canton de se retrouver, prier, soit fin après-midi, soit en soirée. Donc, prenez le papillon, vous avez toutes les informations utiles. Il y a également cette brochure qui est à disposition. Si vous ne pouvez pas vous rendre aux rencontres de prière, vous pouvez suivre le thème et prier selon les sujets proposés chaque jour si vous prenez cette brochure. Et le sujet de cette année, c'est la culture du royaume. Il me semble qu'on a entendu ça aussi ce matin. Il n'y aura pas le culte les uns avec les autres en début de ce mois, le deuxième dimanche souvent c'est le cas, mais c'est le dernier dimanche de ce mois, il y a le culte inter-église, également sur le dos de ces papillons, c'est le 31 janvier que le culte aura lieu à Palexpo. Où on accueille aussi, on le souhaite, beaucoup des églises ethniques du canton qui seront présentes pour cette grande célébration. On commence à penser un peu plus loin. Il y a une rencontre qui aura lieu fin du mois de mai, Paroles et Actes. Il y a des orateurs très intéressants, Don Carson, John Piper, Henri Blocher, entre autres. La vie du disciple à la lumière de la croix. Si vous voulez participer, vous pouvez demander des témoignages à Alexandre et Anne Paulet, qui ont assisté dans le passé, également et Dominique et moi-même. Mais je l'annonce déjà maintenant, parce que si vous vous inscrivez avant mi-janvier, c'est un tarif préférentiel. Donc, c'est sur le tableau, si vous voulez vous renseigner, ce que on vous encourage de considérer cela vivement. Les camps d'été commencent à s'annoncer. Le camp de la Drôme s'était affiché complet très rapidement l'année passée. Alors, si vous voulez participer cet été, les papillons sont déjà à disposition. Voilà, et puis je crois qu'il y a eu quelques anniversaires qui ont été fêtés ou qui se fêtent. Sylvie Ménétré, félicitations. Et Martine Bachet, si je ne me trompe pas, alors félicitations. Et puis bonne année à chacun aussi.
Nous prions pour l'offrande. Il n'y a pas que des sous. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de pouvoir donner, que ce soit le dimanche matin à l'offrande ou par le CCP. Nous te remercions d'être ainsi responsable de la vie de notre Église à Mérin et de notre Fédération d'Église et aussi de la mission. Bénis chaque personne qui bénéficiera de cet argent afin qu'elle le reçoive comme un message d'amitié. Et nous te prions pour notre Église afin que tu la diriges, que tu sois au cœur de notre Assemblée. Merci. Amen. Et nous chantons que l'Esprit de vérité pour conclure notre culte.
Propose cette parole de Jésus ressuscité à ses disciples, qui les invite à participer à son ministère de réconciliation. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Oh, my God.